VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Georges Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 4 mai 2023. Le président américain Joe Biden dit que le conflit au Soudan doit cesser et menace de prendre des sanctions. Au Bénin, le président ordonne une enquête après des attaques qui ont tué 15 civils dans le nord. Au Burkina Faso, le gouvernement demande la mobilisation de tous pour faire face au terrorisme et dénonce la violation de l'espace aérien.
Le Burkina Faso demande uniquement qu'on nous envoie des moyens pour que nous fassions cette barrage. On n'a pas besoin d'un soldat étranger, nous allons gérer notre affaire nous-mêmes.
Dossier de notre correspondant à Ouagadougou à suivre dans la partie magazine. Au Kenya, Ezekiel Odero, un influent pasteur devant la justice après le massacre de Shakahola. La Russie a accusé aujourd'hui les États-Unis d'être commanditaires d'une attaque de drone contre le Kremlin, une allégation mensongère selon Washington. Ne manquez pas notre journal sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. La violence au Soudan est une tragédie et doit cesser, a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué agitant la menace de sanctions alors que les combats font toujours rage à Khartoum. Le point avec John Lydon.
Le président américain dit avoir signé un décret renforçant les pouvoirs de sanctions contre les individus qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan et qui utilisent la violence contre les civils. Il renouvelle dans ce communiqué son appel à un cessez-le-feu durable entre l'armée et les paramilitaires. La directrice du renseignement américain, Avril Haines, a prévenu lors d'une audition au Sénat qu'il fallait s'attendre à un conflit prolongé parce que les deux camps pensent pouvoir l'emporter militairement et ont peu de raisons de venir à la table des négociations. Pour sa part, le chef d'un des principaux groupes rebelles du Darfour, Abdel Wahid Nour, appelle les deux généraux soudanais à cesser les combats où il ne peut y avoir de vainqueurs. Malgré l'annonce d'une nouvelle trêve d'une semaine, les violents affrontements ont continué. Les 5 millions d'habitants de Khartoum vivent terrés chez eux, souvent privés d'eau et d'électricité, sous une chaleur accablante. D'après l'OHCR, la crise va nécessiter 445 millions de dollars jusqu'en octobre, car quelques 860 000 personnes pourraient tenter de fuir l'enfer soudanais.
Au Bénin, le président Patrice Talon a ordonné une enquête après des attaques qui ont tué 15 personnes dans le nord du pays. Le gouvernement dénonce des actes criminels. Les détails avec Nani Talani.
Le président Patrice Talon a demandé à ce qu'une mission d'enquête soit diligentée sur le terrain pour apprécier les circonstances réelles de la survenue de ce drame, a affirmé hier le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ungbedi. D'après des sources locales, 7 villageois de la commune de Kérou ont été égorgés par des hommes armés dans la nuit de lundi à mardi et de nombreux autres sont portés disparus après cette attaque. Le lendemain, dans la commune de Banikwara, 3 civils ont été tués. Sans donner des détails sur ces attaques, le porte-parole du gouvernement confirme qu'environ 15 personnes sont mortes. Il affirme que les criminels essaient de s'implanter et n'y arrivent pas car il y a une réponse des forces de sécurité. Selon lui, ils veulent choquer les populations et leur faire croire que la réponse sécuritaire n'est pas à la hauteur et qu'elle n'aurait leur salut qu'en se ralliant à leur cause.
Dans le centre de la RDC, un conflit foncier a dégénéré en nouvelles violences communautaires qui ont fait au moins 4 morts en début de semaine à Kisangani. Selon la société civile, plusieurs personnes avaient déjà été tuées autour du 10 avril dans ce conflit opposant les tribus Bolé et Lingola. Le calme semblait être revenu, mais les violences ont repris. Le Rwanda a continué aujourd'hui d'évaluer les dégâts causés par des inondations qui ont fait jusqu'à présent 130 morts, l'une des pires catastrophes qu'il est connu ces dernières années. Des pluies torrentielles de la nuit de mardi et mercredi ont causé des inondations et glissements de terrain dévastateurs dans les provinces du nord, de l'ouest et du sud. Au Kenya, un tribunal a ordonné la remise en liberté sous caution de l'influent pasteur Ezekiel Odero, arrêté la semaine dernière dans le cadre de l'enquête sur la mort de 109 personnes dans la forêt de Shakahola, dans le sud-est du pays. Le point avec Rosine Monezero.
Les procureurs avaient demandé le maintien en détention du pasteur Ezekiel Odero pour une durée de 30 jours afin que les enquêteurs puissent pousser leurs investigations. Ses avocats, pour leur part, dénonçaient une détention sans aucune preuve ni plainte. Les procureurs ont évoqué de nouvelles raisons impérieuses de le maintenir en prison après les premières autopsies de corps retrouvées à Chakaola. Selon les résultats des examens médicaux légaux menés sur 40 premiers corps, une majorité de victimes sont mortes par manque de nourriture, mais d'autres ont été asphyxiées ou étranglées. Le pasteur Odero a été libéré contre une caution de 1,5 million de shillings kenyans, soit 10 000 euros environ, avec obligation de se présenter à la police une fois par semaine et interdiction de s'exprimer sur l'affaire. Cette libération n'entraîne toutefois pas l'abandon des enquêtes qui le visent notamment pour meurtre et de suicide, enlèvement, radicalisation, crimes contre l'humanité, cruauté envers des enfants et fraude et blanchiment d'argent.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Kremlin ment quand il accuse Washington d'avoir commandité une attaque présumée de drones ukrainiens. C'est ce qu'a su la Maison-Blanche. Jacques Aristide.
Nous n'avons rien à voir dans cette affaire, a déclaré ce jeudi sur MSNBC le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Pour John Kirby, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, ment purement et simplement à ce sujet. Les décisions concernant de telles attaques ne sont pas prises à Kiev, mais à Washington, a dit Dmitri Peskov à propos de l'attaque que le Kremlin affirme avoir déjouée hier. Moscou dit avoir intercepté deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin, dénonçant une tentative d'assassinat contre le président Vladimir Poutine, la plus spectaculaire attaque imputée à Kiev depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a lui invité à prendre toutes les allégations de Moscou sur cette présumée attaque ukrainienne avec beaucoup de précautions. Concernant les Ukrainiens, John Kirby a déclaré « Nous ne leur dictons certainement pas la manière dont ils se défendent ou les opérations qu'ils conduisent, mais nous leur avons dit clairement, publiquement et en privé que nous n'encourageons pas et que nous ne contribuons pas à des frappes hors de l'Ukraine. » Hier, Washington a fait état d'un nouvel envoi d'armement à Kiev pour une valeur totale de 300 millions de dollars. L'armée ukrainienne a tout ce dont elle a besoin pour déclencher une contre-offensive, martèle John Kirby, que ce soit en termes de formation ou d'équipement.
La télévision publique russe a diffusé ce jeudi des images montrant le président Vladimir Poutine lors d'une réunion de travail présentée comme ayant lieu au Kremlin, sa première apparition publique depuis l'annonce la veille d'une attaque de drone présumée. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a pour sa part mis en garde aujourd'hui Moscou contre toute utilisation de l'attaque contre le Kremlin, l'attaque présumée avec des drones, comme un prétexte pour intensifier son offensive militaire en Ukraine. Des milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées aujourd'hui à Tel Aviv et dans d'autres villes d'Israël pour manifester contre la réforme judiciaire voulue par le président, le gouvernement de Benjamin Netanyahou et de protester contre, entre autres, la cherté de la vie. Monsieur Netanyahou a annoncé le 27 mars une pause pour donner une chance au dialogue, mais la mobilisation contre la réforme reste forte pour le gouvernement. La réforme judiciaire vise, entre autres, à rééquilibrer les pouvoirs en diminuant les prérogatives de la Cour suprême que l'exécutif juge politisé au profit du Parlement. Les détracteurs de la réforme estiment, eux, au contraire, qu'elle risque de mener à une dérive autoritaire ou ne respectant pas l'esprit libéral d'Israël. Après 4 jours de discussions à huis clos, l'Arménie et l'Azerbaïdjan devaient achever aujourd'hui à Washington des négociations de paix à propos de l'enclave disputée du Nagorno-Karabakh, la Maison-Blanche faisant état de progrès. Les deux pays du Caucase se sont affrontés lors de 2 guerres au début des années 90 et en 2020 pour le contrôle du Nagorno, une région montagneuse majoritairement peuplée d'Arméniens qui a fait sécession de l'Azerbaïdjan il y a 3 décennies. Et puis ici aux États-Unis, 4 membres du groupe d'extrême droite Proud Boys, impliqués dans l'assaut contre le Capitole américain le 6 janvier, ont été reconnus coupables ce jeudi de sédition, un chef d'accusation extrêmement rare.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Eric Manirakiza.
L'Afrique du Sud garde Nelson Mandela sur ses billets de banque, mais a choisi d'ajouter à leur verso des lionceaux, éléphantaux et autres bébés animaux. décliné en 5 couleurs d'une valeur de 10 à 200 rand. Les billets émis par la Banque centrale ce jeudi ont conservé le même portrait du sourire discret et au regard malicieux du héros de la lutte contre l'apartheid. Les billets à l'effigie de Mandela actuellement en circulation avaient été émis dès 2012. De nouvelles pièces aux couleurs argent, or et or rose présentent quant à elles faune et flore typiques de l'Afrique du Sud. La croissance devrait ralentir cette année dans la région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, a prévenu mercredi le Fonds monétaire international, soulignant les difficultés des pays les plus pauvres, notamment le Soudan en guerre. Dans le dernier rapport régional présenté à Dubaï, le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance en 2023 à 3,1% contre 3,6% il y a 6 mois. Le contexte est marqué par une inflation persistante, 14,8%, et une baisse de la production de pétrole. Le déficit commercial des États-Unis s'est réduit au mois de mars sous l'effet d'une baisse des importations combinée à une hausse des exportations, en particulier l'énergie, selon les données publiées ce jeudi par le département du commerce.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Basketball Africa League, Seydou Legacy Athletic Club tombe une troisième fois dans la conférence Nil.
Oui, victorieux mardi pour la première fois en 3 matchs, les Guinéens se sont inclinés lors de leur 4e sortie hier mercredi devant le redoutable Petro de Luanda, 95 à 78. Les Angolais alignent ainsi 4 victoires en 4 matchs et sont qualifiés pour les play-offs prévus à la fin de ce mois à Kigali au Rwanda. Toujours hier, battu mardi par les Égyptiens dans la Ligue 91 à 75, les Mozambicains de Ferroviário da Beira se sont repris en dominant les Sud-Africains de Cape Town Tigers, 82 à 76. Cette victoire positionne bien les Mozambicains qui comptent désormais 2 victoires en 4 matchs. Pas de rencontre aujourd'hui. Les 2 dernières journées de cette conférence Nil se disputent demain vendredi et samedi.
Ici en NBA, les Celtics répondent aux Sixers malgré le retour de Joel Embiid.
Boston a largement battu Philadelphie et son MVP Joel Embiid de retour de blessure 121 à 87 pour égaliser à 1 victoire partout dans leur demi-finale de conférence Est. Bagassi Koura.
Oui, cette fois les Celtics n'ont pas sabordé leurs efforts en baissant du pied au dernier quart-temps, un péché qui les avait sanctionnés d'une défaite au TD Garden au premier tour contre Atlanta. C'était super important de remporter ce match et je crois qu'on l'a bien mérité, a réagi Jaylen Brown, meilleur marqueur de son équipe avec 25 points inscrits en 3 quarts-temps. Les finalistes de la saison passée comptaient déjà 32 unités d'avance avant la fin du 3e quart-temps. Le pivot camerounais Joel Embiid, désigné MVP de la saison, n'a pas été aussi mobile et dominant qu'il est habituellement à l'intérieur. Après presque 2 semaines sans jouer, il a compilé 15 points. Nous savions qu'ils allaient réagir après le premier match et nous n'étions tout simplement pas assez prêts. Mais nous allons y remédier lors du match numéro 3 vendredi à Philadelphie, a promis le jeune Camerounais.
Football avec la CAN des moins de 17 ans en Algérie, la 2e journée s'achève aujourd'hui.
Une seule rencontre au programme dans le groupe C, le Mali fait face au Cameroun. Pour rappel, cette poule est composée de 3 équipes car le Soudan du Sud a été renvoyé pour s'être fait prendre par le test IRM pour le contrôle des âges. Hier mercredi, dans le groupe B, le duel des leaders entre le Maroc et le Nigeria a tourné à l'avantage des Marocains vainqueurs 1 à 0. Les Lionceaux de l'Atlas rejoignent ainsi les Sénégalais qualifiés pour le tour suivant. L'Afrique du Sud a réussi une belle opération en battant la Zambie 3 buts à 2.
31 supporters de l'Espérance de Tunis placés en détention après des violences.
Ces supporters sont poursuivis pour association de malfaiteurs dans le but d'attaquer des biens et des personnes et pour agression d'agents publics. Samedi, lors du quart de finale de la Ligue des champions CAF entre l'Espérance de Tunis et la Jeunesse sportive de Kabylie, des supporters de l'Espérance ont tenté d'entrer sur la pelouse après la première période, mais des policiers se sont interposés et de heurts ont éclaté, selon la radio privée Mosaïque FM. Le match a pu reprendre après 30 minutes d'interruption, devant des tribunes pratiquement vides du côté de l'Espérance. 27 autres supporters qui font l'objet d'enquêtes ont été laissés en liberté.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, le gouvernement a initié une série de rencontres avec des responsables politiques, de la société civile, des syndicats et autres. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire. Le gouvernement demande la mobilisation de tous pour faire face au terrorisme et dénonce la violation de l'espace aérien. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Des membres du gouvernement face aux leaders politiques, syndicaux et de la société civile. Ici, le gouvernement explique à ses responsables ce qui est fait dans la lutte contre le terrorisme et dénonce une violation de l'espace aérien. Colonel-major Kassoum Koulibaly, ministre de la Défense.
Nous avons actuellement beaucoup de violations de notre espace aérien. Nous prévenons. Quand les questions disent, voilà, on a vu ça, on vous prévient. Et voilà, on envoie souvent des images, voilà ce que nous avons vu. Dieu merci, ils s'excusent souvent. Ils ont dit, Wagner, soyez sûr, il n'y a aucun militaire, aucun membre de Wagner au Burkina Faso. Ce sont nos propres moyens que nous utilisons pour faire la guerre.
Le colonel-major Kassoum Koulibaly, ministre de la Défense, appelle à la solidarité de tous les Burkinabés.
Le Burkina Faso demande uniquement qu'on nous envoie des moyens pour que nous fassions cette baraque. On n'a pas besoin d'un soldat étranger, nous allons gérer notre affaire nous-mêmes. Dieu merci, la population a massivement répondu à l'appel du chef de l'État pour les vérifier. On a demandé 50 000, nous en sommes plus de 90 000. Même pour la formation, les gens s'inscrivent, ça s'inscrit toujours. Et c'est ça que nous voulons. Il faut qu'on soit sincère, qu'on soit solidaire. Il ne faut pas qu'on se fasse appeler les gens sur le jeu de coupe. Ça arrive. De grâce, notre pays est en train de brûler. Il faut qu'on le sache et qu'on aille ça directement à la maison. Éteignons le feu. Il ne faut pas qu'on nous transforme comme des pays que nous avons vu sur les chaînes de télé. Je ne sais pas si tout le monde vous le savez. Ça ne servira à personne. Soyons solidaires. Ce n'est pas une histoire de personne, ce n'est pas une histoire de pouvoir, ce n'est pas une histoire de trucs, c'est une histoire du Burkina Faso.
Des participants à ces rencontres ont réagi. Taïrou Bari, homme politique.
Et il faut fortement saluer cette démarche du gouvernement et qui nous permet d'avoir des informations crédibles. Parce que ce qui est distillé à travers les autres canaux de communication comme les réseaux sociaux et autres ne sont pas suffisamment d'une certaine crédibilité qui puisse nous permettre de prendre conscience des enjeux et de la gravité de la menace qui pèse sur notre pays. Avec ce que nous avons entendu, il y a un impératif de se remobiliser autour de la nation en danger.
Maître Ali Ouedraogo, acteur de la société civile.
Nous sommes plus concernés par la situation, la mobilisation générale, la situation des guerres. Nous avons hâte vraiment d'en sortir. Et vu la tournure que prennent par les choses, nous sommes convaincus que nous allons nous en sortir. Il faut travailler à l'unité nationale, à informer le peuple, à éduquer le peuple et à prêcher pour l'unité nationale.
D'autres rencontres avec les coutumiers, les ambassadeurs et les patrons de presse doivent se tenir. Le gouvernement dit faire d'énormes efforts dans la lutte contre le terrorisme tout en garantissant le respect des droits humains. Sur les tueries de Karma près de Waïguya qui ont fait 147 morts, les autorités ont rassuré que 12 personnes ont déjà été auditionnées. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Tchad, la pénurie de carburant fait grincer des dents à N'Djamena. Les usagers font le tour dans les stations-service, mais le gasoil et l'essence sont de plus en plus rares. Une situation qui ralentit les activités dans tous les secteurs de la vie. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point dans la capitale tchadienne.
Une pénurie de carburant sans précédent qui donne l'occasion aux petits revendeurs de faire de la spéculation. Ils vendent aux usagers le litre d'essence entre 1500 et 2000 francs CFA. Certains usagers d'engins à deux et à quatre roues en arrivent même à passer des nuits devant les stations-service pour tenter d'obtenir le liquide qui se fait de plus en plus rare. Nous avons eu maille à partir avec les agents du service de sécurité quand nous sommes allés constater les difficultés qu'éprouvent ces consommateurs devant une station-service de la place. La tension est vive.
carton. Faites bon travail. Nous, on va vous protéger. On est en train de souffrir.
Je suis là pour faire mon travail.
Ah, ça, là, ça cause quoi?
Depuis 3 heures, tu m'as fait qu'on est ici. Les policiers viennent ici de nous dire que
pourquoi? Une pénurie qualifiée d'artificielle par les usagers qui ralentit les activités des conducteurs de moto-taxi appelés clandomènes.
Nous, on a passé la nuit ici. C'est depuis hier, 14 heures que nous sommes là. Pour avoir carburant, jusqu'à là, on n'arrive pas.
Et on ne comprend pas. Il y a quelque chose qui me fait mal au cœur. Si un militaire vient, on le sert et nous sommes là, bloqués depuis hier jusqu'à maintenant. On n'arrive pas à comprendre. Je suis un clandomène. Vous voyez, la journée d'aujourd'hui, c'est comme si c'était invalide.
Oui, c'est mon cas, je suis un clandomène. Je suis venu depuis hier vers les 14h30 jusqu'à l'Espagne, le carburant.
Certains citoyens disent ne pas comprendre que le Tchad, qui est un pays pétrolier, puisse connaître une telle situation qui, selon eux, est une insulte à la population.
Il est inadmissible qu'un pays exportateur du pétrole depuis 20 ans aujourd'hui, nous assistons à des pénuries pareilles. Mais je crois que ce sont les Tchadiens qui doivent aussi se réveiller.
Moi, je la trouve déplorable parce que en tant qu'un pays pétrolier, on ne peut pas souffrir des pénuries de carburant pendant plus d'une semaine au fait. On a également les prix des transports qui augmentent de jour en jour.
Moi, je suis surpris. Franchement, qu'est-ce qui ne va pas? On est en train de voir qu'il y a pénurie de carburant, pénurie de gaz, et puis il y a aussi des coupures de courant. Donc, nous demandons au gouvernement d'agir d'une manière très responsable pour que la situation devienne normale très rapidement.
Le secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, Gounou Vaïma Ganfare, dit ne pas être surpris et demande au gouvernement de régler rapidement. Sinon, il brandit la menace d'une réaction syndicale.
La situation, mais qu'on ne condamne plus un travailleur s'il ne vient pas au travail. On ne peut pas gérer un pays sans prévoir. Même si on veut réviser Jarmaya, qu'est-ce qui empêcherait de faire des réserves pour alimenter tout le Tchad en attendant que le temps que la révision va se faire? On commence la révision et on bloque tout. On demande simplement à l'État de régler cette situation-là très rapidement. Mais si cette situation perdure, nous allons réagir.
Selon les informations proches du ministère du Pétrole et de l'Énergie, la situation sera décantée d'ici peu, car la même source indique que le premier convoi de citernes de plus de 1,2 million de litres, dont 7 000 litres d'essence commandés à l'extérieur, est déjà arrivé à N'Djamena. Pour le moment, les conducteurs tchadiens se rongent les freins et attendent simplement de retrouver l'essence à la pompe. André Kodouma Djingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24 sur VOA Afrique, à N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
La manipulation et la désinformation se sont intensifiées avec l'avènement des médias sociaux et la propagation rapide de l'information en ligne. Comment pouvons-nous tous contribuer à garantir que nous avons accès à une information de qualité et fiable? Eric Manirakiza s'est entretenu avec Sadibou Marong, le responsable du bureau de Reporters sans frontières pour l'Afrique subsaharienne.
La désinformation est actuellement l'un des plus gros défis, ça il faut le reconnaître. Surtout dans des pays à problème, entre guillemets, comme le Mali, dirigé aussi par des jeunes, comme le Mali, le Burkina, il faut reconnaître qu'il y a une forte tendance de désinformation. Pas plus tard que cette semaine ou la semaine dernière, nous avons travaillé sur une tentative de désinformation qui a été préparé par des cabinets spécialisés à la demande du gouvernement burkinabé. Bon, nous soupçonnons que c'est le gouvernement, c'est les autorités militaires qui leur ont demandé cela, d'essayer de dire au prédresse, comme on dit, de mettre à rude épreuve les travaux des journalistes compétents et des journalistes indépendants qui ont révélé qu'il y a eu des tueries, qu'il y a eu des au moins 40 personnes tuées à Karma. Et cela aussi, ça pose problème. Et plus nous avançons dans le Sahel, on le voit un peu émerger au Mali avec le comité de défense des militaires qui inonde Twitter, qui inonde Facebook, les réseaux sociaux, pour attaquer directement des journalistes qu'ils considèrent comme des journalistes qui ne sont pas, entre guillemets, soumis aux autorités. Et non seulement en le faisant, ils mettent en péril la sécurité de ces gens-là, mais ils créent également des officines de la désinformation et du faux qu'ils développent et qu'ils partagent sur Twitter, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et c'est une tentative qui est là et pour laquelle il faudra que les autorités se battent, mais et que même la communauté internationale, parce que ce ne sera pas un travail qui va se limiter aux simples autorités. Je pense que c'est des actions coordonnées de manière bilatérale et multilatérale pour faire face à la désinformation.
Donc la motivation de cette désinformation, c'est aussi la manipulation et la propagande. Donc les mêmes gouvernements essaient d'induire en erreur les médias pour peut-être essayer de créer des prétextes pour les supprimer.
C'est ça. Et aussi, essayer de contrôler le narratif, de faire valoir leur narratif. Parce que dans ce débat-là, il y a un narratif qu'ils cherchent à contrôler, aussi bien au Sahel, ou aussi bien un peu, par exemple, en Éthiopie, ou aussi bien dans d'autres pays. Aussi, le contrôle du narratif, c'est quelque chose sur laquelle les autorités ont tendance à mettre beaucoup d'accent, mais en utilisant souvent l'industrie du faux, mais en allant même jusqu'à créer, commencer à développer un peu des systèmes d'intelligence artificielle qu'ils utilisent un peu pour porter des coups à l'information et à l'information intègre et la qualité de l'information. Et ça, on le voit, c'est une tendance qui est en train d'émerger effectivement en Afrique.
Est-ce que les journalistes et les médias sont-ils conscients de cette préoccupation de la désinformation?
Nous appelons les journalistes d'une manière générale à en être conscients, mais nous avons fait mieux. Nous avons amené une contribution de RSF, qui est un projet de RSF qui s'appelle le JTI, Journalism Trust Initiative, qui consiste à mettre en place des initiatives de label pour des médias. Tous les médias qui seront inscrits dans ce programme-là de JTI. Actuellement, en Afrique, nous avons un média au Niger qui est certifié, parce que c'est un processus de certification, pour mettre en place un peu des processus de qualité d'information, de qualité, des standards de qualité pour les informations avec des normes ISO. Tous les médias qui seront souscrits à cela et qui parviennent à y accéder, ça va être une garantie véritable pour ce média-là, à tourner le dos à tout processus de désinformation, tout processus de fake news, tout processus de... Et ça va davantage rendre crédible à ce média-là et ça va davantage formaliser, protéger ces journalistes et le nom ou le titre du média.
Sadibou Marong, responsable du bureau de RSF pour l'Afrique subsaharienne, vous pouvez suivre l'intégralité de cet entretien sur toutes les plateformes digitales de VOA Afrique. Au Togo, les organisations de presse demandent la relecture du Code de la presse et de la communication. L'article 3 du nouveau Code exclut les réseaux sociaux du champ d'application du texte de loi régissant les journalistes. Une aberration pour ces derniers, de nommer la correspondance de Kossi Wosou.
Entré en vigueur en janvier cette année, après un moratoire de 3 ans, le nouveau code de la presse et de la communication ne prend pas en compte les publications des journalistes sur les réseaux sociaux et expose ces derniers à des peines de prison. Pour Isidore Akolor, président du patronat de la presse togolaise, les réseaux sociaux sont de nos jours un outil de travail pour les journalistes.
Tout journaliste aujourd'hui qui se respecte doit avoir son blog, sa page Facebook, son compte Twitter pour pouvoir réagir sur des sujets d'actualité. Pour nous, les réseaux sociaux sont des outils de travail pour les journalistes. Et nous disons que, bon, on ne peut pas faire les journalistes des journalistes de seconde zone.
L'application de ces dispositions du Code de la presse a induit l'emprisonnement de 2 journalistes l'année dernière. L'un d'eux est décédé quelques mois après sa libération. L'autre a dû fuir il y a quelques semaines. Pour Maître Gilles Anani, avocat, certains journalistes ont prêté le flanc.
Certainement qu'il y a eu certaines personnes, ou certains journalistes, pas tous, ça il faut le dire, et qui ont fait qu'à un certain moment, certainement, le législateur a dit, bon, je vais voir si je ne veux pas commencer par mettre une coupe là-dedans, malheureusement. Et à partir de là, on s'est retrouvé avec des dispositions qu'on peut critiquer, à tort ou à raison, et qui font que la marge de manœuvre qu'il y avait avant a commencé par se réduire.
Pour Loïc Lawson, directeur de publication de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates, ce code doit être purement et simplement toiletté.
Cet aspect du code de la presse qui ne reconnaît pas aux journalistes dans l'exercice de son métier d'user des réseaux sociaux, en 2023, ce n'est pas possible. On marche à reculons. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que quand on fait une erreur ou quand un test est voté et qu'on reconnaît que le test n'est plus en adéquation avec la réalité du moment, il faut la changer.
Reconnaissant que la perfection n'est pas de ce monde, le ministre de la Communication et des Médias estime que le code de la presse ne doit pas connaître de sitôt un toilettage. Akoda Ayewadan.
Le gouvernement est tout ouï pour recueillir les propositions et les suggestions de nos partenaires journalistes, tout en priant les uns et les autres de laisser quand même le texte vivre. Il est important, le texte date de 2020. Si en 2023, l'on ambitionne de renverser la table et de pouvoir créer un autre texte, on n'aura pas donné la chance à ce texte de faire ses preuves.
Selon le porte-parole du gouvernement, Christian Trimoy, les journalistes devraient s'accommoder au moins pendant 2 ans avant une possible modification. Kossi Wosou, Lomé pour VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.